Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Margot Le Ridon, mais aussi Mélanie Chalandon, Bertie Bourdon et Nicolas Sendé, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Cindy Le Grumelec. Dernier temps de notre série consacrée aux enjeux soulevés par le Covid-19. Après avoir évoqué lundi le retour des populismes à la faveur de l'épidémie, mardi la course au vaccin, et puis hier la relance économique post-confinement, tournons-nous aujourd'hui vers les mutations du travail induites par le coronavirus. Travailleurs de tous les pays, restez chez vous, c'est le titre de notre émission ce matin.
Nous avons déjà dit aux gens que pendant toute l'année 2020, ils peuvent choisir de travailler à la maison. Je pense qu'ils peuvent être tout aussi productifs. Avec les exigences de distanciation physique, alors que nous envisageons d'ouvrir des bureaux, nous n'arriverons dans un premier temps qu'à 25% de densité et de capacité. Donc, beaucoup d'entre nous vont devoir travailler à distance un certain temps. Et à l'issue de cette période, je m'attends à ce que le travail à distance reste une tendance croissante. Je pense que nous allons être l'entreprise la plus avant-gardiste en matière de télétravail. Je pense qu'il est tout à fait possible qu'au cours des 5 à 10 prochaines années, environ 50% de nos employés travailleront à distance. Ce serait mon souhait.
Cette voix qu'on entendait à l'instant, c'est celle de Mark Zuckerberg, donc le patron de Facebook, qui a annoncé cet été que le télétravail n'en est qu'à ses débuts, comme d'autres géants de la tech l'ont fait cet été, de ce nouveau mode d'organisation envisagé depuis des décennies mais longtemps resté très marginal en pratique, a connu une spectaculaire accélération lors du confinement. Mais cette révolution en cours soulève plusieurs problèmes, à commencer par celui des inégalités. Le télétravail est en effet souvent réservé aux cadres et aux plus diplômés. Il oblige en outre à reconsidérer la notion de temps de travail avec les opportunités et les dangers que ça implique. Cette question est d'autant plus centrale qu'en période de crise économique, elle peut, télétravail ou pas, servir de variable d'ajustement, qu'il s'agisse d'augmenter le temps de travail pour relancer la productivité, au contraire de le réduire pour éviter les licenciements. Alors que le Covid-19 s'installe et que la plupart des États sont sortis du confinement strict, quels sont les pays et les secteurs où le télétravail semble s'installer le plus durablement? Peut-on évaluer ou anticiper son impact sur la productivité et la croissance? Et au-delà de cette pratique, quelle autre mutation la pandémie induit-elle, notamment en termes d'emploi et de salaire? Pour évoquer toutes ces questions, on a invité ce matin d'abord Christine Herrel, qui est avec nous ici en plateau à Paris. Bonjour Christine.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes économiste, directrice du Centre d'études de l'emploi et du travail du Conservatoire national des arts et métiers. Et vous venez de publier un ouvrage qui est paru au mois de juin dans la collection Que sais-je, les politiques de l'emploi chez PUF. Donc, avec nous également Gilbert Sept. Bonjour. Gilbert Sept n'est pas encore là, on va refaire la connexion, on va le retrouver. Alors Christine Herrel, on va commencer avec vous. Vous entendiez dans ce petit son introductif la voix de Mark Zuckerberg qui prévenait ses employés, vous allez continuer à télétravailler, et ça pendant des mois, peut-être plus encore. C'est pas le seul, hein, Facebook, à avoir fait cette annonce. On a entendu aussi Alphabet, qui est la maison mère de Google, faire ce genre d'annonce, Twitter également. Est-ce que l'annonce de Mark Zuckerberg et d'autres géants de la tech sont le signe que finalement on est vraiment à un tournant et que l'économie mondiale va finir par prendre ce chemin-là? Est-ce que l'histoire du management nous dit ça? Ce qui se fait dans la Silicon Valley finit par se faire partout dans le monde?
Non, pas nécessairement. Je pense qu'il y a des spécificités du travail dans ce type d'industrie, du numérique, et qu'on ne va pas forcément retrouver, ou de services numériques, qu'on ne va pas retrouver dans d'autres secteurs de l'économie. Donc ça n'est pas quelque chose qui peut se généraliser. Par ailleurs, la tendance à l'augmentation du télétravail, elle existait déjà avant la crise du Covid. Donc effectivement, il y a quand même une tendance au développement du télétravail. Mais il faut peut-être préciser un petit peu de quoi on parle. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a plein de manières de télétravailler? Ça peut être télétravailler à temps plein, ce qui est effectivement une forme un peu limite, on va dire, de télétravail. Mais ça peut être aussi le télétravail occasionnel, qui est quand même celui qui est le plus répandu. Donc une journée ou deux journées par semaine. En France, c'est quand même ça la modalité la plus courante, avant la crise, hormis la crise Covid et le confinement, de mise en place du télétravail. Là, dans le cas de la déclaration qu'on vient d'entendre, on est plutôt sur l'idée vraiment d'un télétravail beaucoup plus intensif, qui je pense considère, enfin là, ce qu'il considère implicitement, c'est que c'est la majorité du temps de travail qui va se passer à domicile, avec éventuellement quelques réunions occasionnelles. Mmh. Voilà. Ça, c'est pas du tout un modèle dominant. Le modèle dominant, c'est plutôt celui de l'occasionnel, avec une ou deux journées par semaine.
Et en même temps, on voit qu'il y a énormément de différences d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre. Il y a eu plusieurs études qui indiquent que, s'agissant de la France, il semblerait que, au fond, nous ne soyons pas si enclins que cela au télétravail. En tout cas, quand on regarde ce qui s'est passé au moment du déconfinement, le retour en présentiel, comme on dit, a été beaucoup plus fort en France que dans d'autres pays. Il y a un sondage YouGov, par exemple, qui montre que la proportion de télétravailleurs est tombée de 27% à 15% des personnes en emploi suite au déconfinement. Ça, c'est pour la France. Quand on regarde le Royaume-Uni, par exemple, on a atteint 35% pendant le confinement. Et à la fin du mois d'août, on était encore à 29%. Donc, on voit qu'on maintient beaucoup plus le cap. Qu'est-ce qui pourrait expliquer que ici en France, on serait plus... moins enclin, il y aurait une forme de réticence à adopter ce télétravail. Quand on regarde par exemple du côté des Belges, de l'Allemagne aussi, on voit que c'est beaucoup plus fort. Le télétravail est resté plus généralisé.
Alors, je pense que là aussi, il faut quand même distinguer la période confinement et post-confinement et la tendance globale. Parce que si on regarde la tendance globale, la France fait quand même partie des pays où le télétravail est plutôt développé comparativement à tout le sud de l'Europe, par exemple, ou les pays de l'Est de l'Europe, où ça l'est beaucoup moins. On fait quand même partie des pays où le télétravail s'est développé dans les 10 dernières années, progressivement. Donc voilà, les entreprises françaises ont quand même intégré ce type de pratique dans leur mode de gestion des ressources humaines. Après, dans la phase Covid et la crise, c'est plus compliqué à analyser. Je pense qu'il y a toute une série de facteurs qui peuvent jouer sur les choix qui ont été faits. Donc, y compris la situation sanitaire. Quand on parle du Royaume-Uni, par exemple, la situation est restée compliquée plus longtemps qu'en France. C'est vrai que au mois de juin, en France, on était dans une situation plus favorable que celle du Royaume-Uni. Donc, je pense qu'il faut rester prudent sur les comparaisons. Il y a plein de facteurs qui peuvent jouer. Ensuite, sur les raisons du point de vue des entreprises, je pense que la raison fondamentale, c'est que le télétravail, ça implique de revoir l'organisation du travail. C'est quelque chose qui est du coup quand même coûteux du point de vue de l'organisation du travail et de la mise en place de nouveaux modes d'organisation du travail. Ça peut pas se faire en claquant dans les doigts. Il y a toute une série de choses qui vont avec. Il y a des questions d'équipement, il y a des questions d'organisation, donc il y a un coût pour les entreprises. Donc c'est vrai que je pense qu'un certain nombre d'entre elles n'ont pas voulu finalement poursuivre davantage parce que elles préfèrent revenir à un mode d'organisation plus classique. Et du point de vue des salariés, il y a aussi quand même des insatisfactions assez fortes par rapport au télétravail qu'on voit dans les enquêtes qui ont été faites, y compris justement en sortie de confinement. Enfin, on pourra peut-être y revenir plus en détail, mais
on va y revenir. Il y a un coût, mais il y a aussi un bénéfice. Il va falloir regarder justement quels sont ces coûts et ces bénéfices et faire peut-être un bilan de tout cela du point de vue des sociétés, puis aussi du point de vue des employés, évidemment. Ça y est, on a retrouvé Gilbert Sept. Vous êtes avec nous, vous m'entendez ?
Absolument.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc professeur d'économie associé à l'université d'Aix-Marseille, auteur d'un certain nombre d'ouvrages, je rappellerai le dernier en date, Le bel avenir de la croissance, leçon du XXe siècle pour le futur. J'évoquais la question peut-être de cette réticence française à l'égard du télétravail. Christine Hérel disait, attention, il y a aussi un contexte sanitaire particulier, donc il faut bien mesurer les choses. Est-ce que vous pensez que nous, Français, nous sommes plus attachés au travail présent, ou est-ce que vous rejoignez Christine Hérel et vous dites non, en réalité, les travailleurs français sont tout autant que les Belges, les Espagnols ou les Anglais enclins à prendre ce virage du télétravail?
Oui, en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Christine Hérel. Il est encore trop tôt pour élaborer des comparaisons internationales assez robustes. Vous voyez, le contexte est très différent selon les pays. Très différent, comme l'a dit Christine, d'une part du fait des contraintes sanitaires qui sont pas les mêmes d'un pays à l'autre, et puis très différent aussi dans la période actuelle, puisque on est dans une période dans le post-confinement qui touche à l'été, aux périodes estivales. Il est clair que dans les périodes estivales, certaines activités voient beaucoup de travailleurs pour lesquels le télétravail ne fait pas sens, dans les activités de tourisme par exemple, eh bien être mobilisé. Et la France est un pays dans lequel il y a un petit peu plus, même sensiblement plus, d'activités touristiques que dans d'autres pays, même si les activités touristiques ont été fortement frappées, évidemment, par une mobilité réduite y compris dans le post-confinement.
Il y a quand même, beaucoup d'emplois.
Normal, même en dehors du confinement, si vous voulez.
Ouais. Il y a quand même plein d'emplois, Gilbert Sept, qui pourraient se faire en télétravail et qui ne le se font pas. Est-ce que le virage va se faire en se contentant d'indications, de mesures incitatives, ou est-ce qu'il va falloir passer par la loi et un cadre légal spécifique pour vraiment accélérer le phénomène, selon vous, Gilbert Sept?
Moi, je dirais que le cadre légal doit surtout avoir d'autres finalités. Il faut laisser les acteurs voir quel est leur intérêt. Et quand je dis acteurs, c'est les entreprises et les travailleurs. Le cadre légal doit plutôt définir les conditions dans lesquelles les travailleurs peuvent être amenés à faire du télétravail. On peut penser aux questions de mesure du temps de travail. On peut penser aux questions de temps de déplacement, de moments de sollicitation des travailleurs qui travaillent à domicile. Vous voyez, donc il y a tout un tas de conditions d'environnement du recours au télétravail qui doivent être définies, qui sont assez spécifiques à ce type de travail. Mmh. Quand un cadre travaille est mobilisé en télétravail, bon, il sait en quelque sorte réagir, il a les moyens sans doute de réagir vis-à-vis des sollicitations de son employeur. Quand un travailleur beaucoup moins qualifié est mobilisé en télétravail, comment pour lui réagir à sollicitations de son travailleur, à des horaires par exemple qui dépassent ses horaires de travail habituels, ou le week-end, puisque les frontières entre travail et non-travail deviennent un peu floutées, vous voyez, avec le télétravail. Donc les conditions même du télétravail doivent être davantage définies quand le télétravail devient massif et touche d'autres catégories de salariés simplement que des cadres supérieurs, comme c'était le cas auparavant.
Christine Hérel, incitation ou obligation ?
Moi, je pense qu'il faut pas d'obligation, dans la mesure où déjà on est dans un contexte qui est un contexte trop incertain, au sens, enfin, mettre en place, comme je l'ai dit avant, il y a quand même un coût à la mise en place du télétravail pour les entreprises. Donc là, on peut pas se projeter au-delà de 3 mois, 4 mois, compte tenu de la situation sanitaire actuelle. Donc, si mettre en place des outils nouveaux, si finalement dans 4 mois on peut revenir en présentiel, il n'y a pas forcément de raison de le faire. Voilà. Donc, d'un point de vue, je pense pas que ce soit un objectif des politiques publiques à moyen terme de développer le télétravail. Le télétravail, ça doit être une opportunité, mais pas quelque chose qui est un objectif. L'objectif, c'est pas d'avoir 50% de la population en télétravail. Ça pose trop de problèmes à la fois du point de vue des salariés. On y reviendra peut-être sur les résultats des sondages, etc., sur ces questions et des enquêtes conditions de travail. Et puis du point de vue des entreprises, on peut quand même penser aussi que sur certaines activités, ça a des effets négatifs sur la productivité, l'efficacité. Donc c'est des choses qui doivent être prises en compte.
Alors justement, avant de parler de la productivité, plaçons-nous effectivement du côté de l'entreprise. Il y a des coûts, il y a des bénéfices. Les coûts, vous en avez évoqué tout à l'heure quelques-uns. Par exemple, il faut tout simplement que ces employés soient équipés pour ça, hein, qu'ils aient un ordinateur, une connexion Internet, que sais-je encore. Mais il y a aussi des bénéfices. Alors le premier auquel on pense, si cela venait à se généraliser, c'est pas le cas, mais c'est le fait qu'on n'a plus besoin de locaux. Alors quand on fait le bilan de tout ça, finalement, coût-bénéfice du côté de l'entreprise, l'intérêt pour l'entreprise d'avoir des télétravailleurs.
Bah, l'intérêt, il me semble que pour l'entreprise, c'est difficile de raisonner exclusivement sur des coûts et des bénéfices du type de ceux que vous évoquez, c'est-à-dire exclusivement le côté le coût lié au fait d'acheter un ordinateur performant pour travailler à domicile, et puis le bénéfice qui serait le moindre loyer qui va être payé par les entreprises. Bien sûr, ça peut entrer en ligne de compte, mais après il y a toute la question quand même du processus de production et de l'efficacité de l'organisation du travail. Et là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à mesurer. Pour le moment, on n'a pas d'exemple, à mon avis, en tout cas dans ce que j'ai eu l'occasion de lire, d'études un petit peu fines de l'impact effectivement du télétravail à très forte intensité, c'est-à-dire donc télétravail pour la majorité des salariés et sur un temps long, au moins 4 jours par semaine, par exemple, de l'impact de ce type d'organisation du travail sur les résultats des entreprises.
Sur la productivité.
Les résultats, différents types d'indicateurs de résultats des entreprises, en particulier la productivité. Donc ça reste des choses qui sont encore des choses sur lesquelles il faut travailler pour avoir des résultats plus précis.
Gilbert Sette, vous avez écrit un article intitulé, je cite, « Télétravail et croissance économique, une opportunité à saisir », c'était dans la revue Futurible. Oui. Et vous écriviez notamment qu'il est possible de dégager des gains de productivité avec ce télétravail, sous certaines conditions. Quelles conditions ?
Absolument. Les expériences qui ont été analysées dans la littérature économique montrent que le télétravail peut être associé à des gains très forts de productivité ou au contraire à des pertes très fortes de productivité. Je prends l'exemple d'une analyse quand même très très approfondie qui a été faite par un auteur américain, Nick Bloom, et quelques co-auteurs, et qui montre, dans le cas d'une très grande entreprise, des gains de productivité de 25% par le passage au télétravail. Simplement, ce passage au télétravail avait été préparé très longtemps à l'avance. Les managers avaient été préparés à l'encadrement de leurs collègues dans le cadre du télétravail. Le matériel était présent, le télétravail n'était pas à 100% d'ailleurs, était majoritaire dans la semaine, mais n'était pas à 100%. Donc vous voyez, il y avait différentes conditions, mais ça aboutissait à des gains de productivité absolument considérables. Et puis on a aussi une littérature économique qui nous montre que quand c'est mal préparé, quand c'est mal fait, et ça a été fréquemment le cas dans le contexte du coronavirus, hein. Du jour au lendemain, des entreprises ont été amenées à passer en télétravail. En plus, la fermeture des établissements scolaires les amenait à avoir les enfants autour d'eux. Le matériel n'était pas présent. Le personnel encadrant n'avait pas été préparé aux modalités de l'encadrement de leurs collègues dans le contexte du télétravail. Eh bien, on a des exemples de pertes de productivité de 40-45%. Donc, ceci pour dire que le télétravail peut dans certains cas générer des gains de productivité considérables, dans d'autres, au contraire, des pertes de productivité.
Mais alors, donc c'est une opportunité la recette, Gilbert
à saisir, mais il faut bien la saisir.
Gilbert Sette, c'est quoi la recette ? La bonne préparation au télétravail, c'est quoi ?
La bonne préparation au télétravail, c'est d'abord de considérer que c'est pas d'un claquement de doigts, comme le disait Christine Hérel tout à l'heure.
Donc ça prend du temps.
C'est du présentiel. Donc ça prend du temps. C'est quelque chose qui se prépare. Et en termes de matériel, et en termes d'encadrement, et en termes de suivi des travailleurs, vous voyez, c'est quelque chose qui se fait pas du jour au lendemain. Il est clair qu'un chercheur peut télétravailler assez facilement pour une bonne part de son activité. D'autres personnes, d'autres cadres, d'autres employés de service ne le peuvent pas aussi facilement. Donc c'est quelque chose qui se prépare. Et évidemment, dans le contexte du passage au télétravail soudain, qui a été celui du coronavirus, beaucoup d'entreprises sont passées au télétravail dans des conditions qui n'étaient pas optimales, avec en plus, je le souligne, la présence d'enfants autour d'eux, compte tenu de la fermeture des établissements scolaires.
On pensait tous à ça, Gilbert Sette. Christine Hérel.
Oui, voilà. Pour aller dans le même sens, hein, dans l'aspect, la dimension préparation, anticipation, il y a aussi une dimension négociation. Il faut que ce soit négocié au sein des entreprises, donc entre les partenaires sociaux s'ils sont présents. Donc, ça, c'est aussi une chose qui est très importante. On a des études de l'INSEE, de la d'Ares, par exemple, hein, qui montre avant le confinement que dans les entreprises où on a eu un accord sur le télétravail, les conditions de travail des salariés en télétravail sont globalement meilleures. Leur satisfaction au travail et leur niveau aussi d'effort déclaré est meilleur dans les entreprises dans lesquelles il y a un accord.
Et est-ce que ça change la manière de superviser le travail de ces employés? Est-ce que le management, pour utiliser un mot bien français, est différent lorsqu'on passe sur du télétravail? On imagine qu'il y a une supervision, un suivi à faire, sans être trop intrusif, et en même temps en étant là pour bien accompagner les employés. Il faut adapter ça.
Oui, c'est clairement des nouveaux outils d'organisation et de suivi du travail. Et comme le disait Gilbert Sette, les gens n'ont pas nécessairement été formés à ça. Donc là, dans le cadre de l'expérience récente, ce qui peut poser problème. Donc effectivement, il y a besoin de formation pour les managers pour qu'ils connaissent des outils qui sont des outils d'encadrement. Avec toute la difficulté, c'est ça, du maintien du contrôle sans être non plus sur quelque chose qui va être trop intrusif. C'est délicat de trouver le bon équilibre.
Alors justement, Gilbert Sette, il y a beaucoup d'outils qui permettent de superviser, contrôler, on mettra le terme qu'on veut, son télétravailleur. Il y a des logiciels de pointage où on va tout simplement noter son horaire. Tout ça est déclaratif, donc on se demande bien si c'est vraiment quelque chose de fiable ou pas. Enfin, peu importe. Il y a aussi des traceurs informatiques qui vont enregistrer toute l'activité numérique des travailleurs. Est-ce que tout ça, ça représente pas quand même un risque pour la liberté des travailleurs? On a d'un côté ce discours qui consiste à dire que le télétravail, c'est l'émancipation, la liberté incroyable pour les employés. Et en même temps, on voit que on a ce risque-là qui pointe.
Mais, évidemment, tout changement, toute transformation présente certains risques, et c'est la raison pour laquelle, comme le disait tout à l'heure Christine Herel, il faut impérativement que tous les acteurs s'engagent de façon positive par rapport à ce changement et y trouvent leur compte. S'ils ont l'impression d'être, si les travailleurs ont l'impression d'être fliqués d'une façon beaucoup plus serrée, il y aura une réticence, et cette réticence ne sera pas favorable au gain de productivité qu'on évoquait tout à l'heure. Mais je voudrais par rapport à ça quand même ajouter une remarque. Il n'y a pas télétravail ou pas télétravail. Vous voyez, la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Il peut y avoir un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, cinq jours par semaine de télétravail. Il peut y avoir pour une équipe la décision d'être en présentiel dans l'entreprise un ou deux jours par semaine, justement pour faciliter la fluidité de la circulation d'informations, pour permettre d'accueillir les nouveaux arrivants, pour etc. Enfin, pour un tas de raisons. Donc c'est pas 0 ou 1 en quelque sorte le télétravail. C'est rarement 0 ou 1 le bon télétravail. C'est souvent une dose de télétravail qui pourrait être totalement variable selon la nature de l'activité.
Christine Herel, vous rejoignez Gilles Berset parce que, évidemment, la question, c'est celle du bon équilibre. Ça dépend du secteur, ça dépend de l'activité. Qu'est-ce qu'il ne faut pas dépasser comme dose de télétravail pour ne pas risquer d'avoir des employés qui tombent dans l'isolement social, voire dans la dépression? On sait que c'est des choses qui peuvent arriver.
Mais c'est difficile de le fixer de manière uniforme pour l'ensemble des secteurs et l'ensemble des métiers. Je pense que c'est quelque chose qui doit se décider à un échelon beaucoup plus local, dans les entreprises, et effectivement sur la base, comme je le disais, de négociations, de discussions, selon le cadre de l'entreprise, la taille de l'entreprise.
Pardon, c'est difficile de le fixer. Pourquoi ça dépend du secteur? Parce qu'on se dit qu'à priori, ça dépend plutôt au fond de...
Bah, comme le disait Gilles Berset tout à l'heure, il y a des métiers dans lesquels ça n'est de toute façon pas possible. C'est-à-dire que si vous êtes dans le secteur
du tourisme, il
n'y aura pas de possibilité. Après, on peut parfois quand même... Certains travailleurs vont avoir différents types de tâches à accomplir dans leur journée, dont certaines peuvent être accomplies en télétravail. On peut imaginer...
J'entends bien, mais notre besoin de relations sociales, il ne varie pas en fonction des secteurs, je veux dire.
Non, ça c'est autre chose. Enfin, si on est sur l'aspect, la dimension éviter l'isolement, etc. Oui. Là aussi, c'est encore une fois, ça va être difficile de fixer une norme et de donner un nombre de jours qui est le nombre de jours optimal de télétravail. Mais évidemment, il me semble quand même que le modèle le plus équilibré, c'est celui où il y a une partie de présentiel, mais après, selon le type d'activité, selon le profil des travailleurs, ça va être quelque chose qui peut être ça peut être au minimum une journée par semaine, mais ça peut être plus aussi. Ça va être quelque chose qui va se déterminer à un échelon beaucoup plus localisé. Alors, par exemple, on parlait, pour les jeunes, une question importante, effectivement, aussi, c'est celle de l'intégration des jeunes ou des nouveaux arrivants dans une entreprise. C'est très difficile de faire l'intégration de jeunes ou de nouveaux dans une entreprise à distance, parce que là, la dimension collective et la dimension interaction humaine, effectivement, est très importante. Donc pour ces jeunes qui entrent dans une entreprise, on pourrait imaginer qu'il y ait davantage de présentiel dans un premier temps, avant de passer un petit peu plus de travail à distance. Il y a des adaptations à faire en fonction à la fois du type d'activité et du public.
Et en même temps, on dit de ces jeunes précisément qu'ils sont peut-être plus avides de télétravail. Il faut évidemment avoir en tête que ce sont des jeunes générations qui sont nées avec Internet, les outils informatiques, et qui donc sont très à l'aise dans tout cela. Est-ce que c'est juste cette idée, Jules Berset, au fond, qu'il y aurait une forme de rupture générationnelle et que l'appétence des jeunes au télétravail serait plus forte, ou que, inversement, leur rejet du bureau, leur rejet du présentiel serait plus affirmé?
Écoutez, dans ce que j'ai pu constater moi-même, j'ai pas vu de barrière aussi forte liée à l'âge. Les différences étaient plutôt tenaient plutôt à la nature de l'activité. Mais voyez, si on veut faire un petit peu la somme des gains potentiels liés au télétravail, pour les travailleurs, évidemment, il y a l'économie du temps de transport et puis l'économie de conditions de transport qui sont parfois très très mauvaise, très très dur à vivre. On pense bien sûr à ce qui se passe dans la région parisienne et à la surcharge des RER dans la région parisienne. Il y a aussi une meilleure conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle que peut permettre le télétravail, et donc ce mieux-être peut être un facteur de gain de productivité dont peut bénéficier l'entreprise. Et puis par ailleurs, l'entreprise peut évidemment bénéficier d'une économie de locaux, comme vous le signaliez tout à l'heure. Et puis, à un niveau plus global, il peut y avoir un gain environnemental avec une réduction des transports, une réduction de certaines mobilités quotidiennes. Et ce gain, il peut être absolument considérable en termes d'émissions de CO2. Donc, vous voyez, il y a différents types de gains. Il s'agit de tout faire en sorte pour que ces gains soient maximisés, celui du travailleur, celui de l'entreprise, celui des émissions et des mobilités quotidiennes, de façon à ce que la société, les travailleurs et les entreprises et l'économie y trouvent leur compte.
Maximiser les gains, Christine Hérel, c'est quelque chose qui se mesure assez directement par le salaire. On peut espérer que les économies réalisées, que les gains dégagés par les entreprises ne poussent justement les employeurs à mieux payer les employés. Et en même temps, on peut craindre aussi que les transformations du marché du travail créent une nouvelle concurrence et tirent les salaires vers le bas. On va avoir forcément un marché du travail qui va bouger. Quand vous pouvez embaucher quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, évidemment, vous créez de la concurrence. Quelle évolution faut-il attendre, Christine Hérel, s'agissant des salaires? Est-ce que les niveaux de rémunération vont bouger ou pas forcément?
Alors, je pense qu'il n'y a pas de lien direct quand même avec la question du télétravail, en tout cas à court terme. Par contre, il va y avoir un lien direct avec la situation générale du marché du travail. La situation dans laquelle on est, c'est quand même une situation de récession, une situation donc de choc macroéconomique extrêmement important. Donc, on s'attend à une hausse du chômage. Et effectivement, dans ces situations de hausse du chômage, ce qu'on attend, c'est quand même davantage, au moins une stagnation des salaires, en tout cas un ralentissement de leur croissance. Donc la période ne va pas être favorable pour les salariés, c'est certain, dans les mois, voire les années qui viennent, de ce point de vue. Mais je pense qu'on est plus
c'est la conjoncture dans le cadre qui va dicter
crise,
ça.
Une crise conjoncturelle que dans le cadre de transformations structurelles qui seraient liées à la place du télétravail. Là, c'est trop tôt pour parler de ça. On, encore une fois, tout dépend aussi de la durée de la crise, tout dépend d'autres facteurs. Effectivement, si on est dans une logique de transformation de la société et de l'économie, y compris pour réduire les émissions carbone, etc., et qu'il y a un pas supplémentaire vers le télétravail, des gens qui vont s'installer à la campagne pour finalement avoir une meilleure qualité de vie, moins de transport, etc., peut-être que ça aura un impact sur le niveau de concurrence sur le marché du travail et les salaires. Mais à court terme, je pense que le point central, c'est la conjoncture.
C'est la conjoncture. Gilles Berset, vous rejoignez Christine Hérel?
Oui, absolument. La question est complexe. D'abord, vous savez, pour ne pas parler de travail, mais de travail à distance, la question n'est pas nouvelle. On connaît tous, par exemple, le fait que les centres d'appel sont parfois très 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 éloignés de la France métropolitaine, hein, pour un grand nombre d'entreprises. Dans le secteur de l'édition aussi, il y a beaucoup de travail à distance. Et la mise en forme, la confection de certains supports d'édition, en France comme dans beaucoup d'autres pays européens, est parfois fait en Inde ou dans d'autres pays très très éloignés du nôtre. On le sait tout. Donc c'est pas un phénomène récent, cela. Mais un élément favorable sur le niveau de vie, outre ceux que j'évoquais tout à l'heure, d'une meilleure conciliation, de l'économie de temps de transport, etc., c'est le fait que, imaginez un jeune travailleur dans une entreprise parisienne. Le prix du mètre carré est très très élevé, et en location et à l'achat. S'il télétravaille 2-3 jours par semaine, il peut décider d'habiter en Vallée de la Bièvre, accessible par le RER, et aller à son lieu de travail, travailler en présentiel 2 jours par semaine et avoir une considérable amélioration du niveau de vie avec simplement le fait que le prix du logement aura baissé des 2 tiers. Donc, vous voyez, en termes de pouvoir d'achat, les choses sont complexes. Il n'y a pas que le salaire, il y a aussi le prix, en quelque sorte, et en particulier le prix du logement, qui est considérable dans les dépenses des ménages, mais le prix du logement peut être modifié et modifié à la baisse par le télétravail.
Quelle pourrait être l'ampleur, Christine Hérelle, de ce phénomène d'exode urbain? C'est vrai que c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Gilles Berset évoquait la possibilité d'aller au vert et d'habiter dans une maison qui nous coûtera beaucoup moins cher que le petit appartement que l'on achète en région parisienne. On voit déjà des choses comme cela du côté des États-Unis qui ont un effet direct. Si on regarde du côté de San Francisco, on voit que la moyenne des logements a déjà commencé à baisser parce qu'il y a effectivement beaucoup d'employés des géants de la tech qui sont partis et qui ont quitté la ville, donc qui ont enlevé un peu de cette pression foncière qui est considérable. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de fantasme dans tout ça, Christine Hérelle? Est-ce que les villes n'ont pas encore des atouts que nos campagnes ne sont pas prêtes d'avoir?
Si, il reste une attractivité quand même de la ville pour d'autres raisons, hein, qui tiennent à une forme de qualité de vie que certaines personnes peuvent privilégier en termes de sortie, en termes aussi. Alors, si on pense aux familles, il peut aussi y avoir un avantage au fait d'être en ville pour concilier plus facilement l'emploi de monsieur et celui de madame, parce que c'est pas toujours facile si on part plus loin d'avoir effectivement 2 professions qui se font en télétravail, etc. Ça va pas forcément être simple. Ça peut être aussi plus facile du point de vue de la scolarisation des enfants, enfin de leurs études ultérieures, etc. Il y a plein de raisons pour rester effectivement dans des environnements urbains. Donc ensuite, j'ai envie de dire, ça dépend un petit peu des préférences. Et donc là, c'est difficile de complètement se projeter sur des éléments quantitatifs. Bon, je pense que le phénomène, c'est un phénomène qu'on a vu à une certaine période, ce phénomène de périurbanisation et du fait qu'un certain nombre de ménages sont partis habiter de plus en plus loin des centres urbains, mais en faisant plutôt des allers-retours en voiture. Donc là, on serait sur le même type de phénomène, mais avec l'idée au contraire de limiter plutôt les transports et les déplacements. Je pense que ça restera quand même minoritaire par rapport à la proportion de gens qui veulent vivre en ville pour toutes les raisons qu'on a évoquées.
Vous disiez, Gilles Berset, que le travail à distance était quelque chose d'assez ancien. Vous avez raison. Preuve avec cette archive de 1984 où il était déjà question de travail à distance.
Depuis 1981, Brigitte télétravaille ici à Grasse, à un quart d'heure de son domicile. 9 heures avant de rejoindre son lieu de travail, elle a le temps de faire son marché. Après tout, rien de bien original. Pourtant, elle fait partie d'un petit groupe de privilégiés, entre guillemets. Ils sont 12 télétravailleurs au PTT sur un total de 260 000 agents environ en France.
Dans ma vie de tous les jours, disons que je peux me permettre de faire plus de choses. Parce que lorsque je travaillais sur Cannes, bon, c'était prendre la voiture, aller travailler, boulot, dodo. Et maintenant, disons que je peux faire mes courses dans la journée, je peux faire du sport. Disons que j'ai plus de temps de disponible.
C'est une formule de travail qui devrait se développer parce que, à mon avis, elle correspond à l'attente d'une grande partie du personnel, notamment du personnel féminin, qui souhaite travailler près de son lieu de domicile, de vie, oui.
Voilà, archive de 1984 qui devrait se développer, sauf qu'en réalité, quand on regarde les choses, ça s'est pas beaucoup développé, en tout cas de façon extrêmement lente, Christine Hérelle. On pensait déjà au télétravail en 1984 et pourtant, ça a mis énormément de temps et c'est encore finalement une pratique assez marginale. Pour quelles raisons? Au fond, qu'est-ce qui a bloqué? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le télétravail n'est pas massivement généralisé?
Alors, ça a quand même augmenté, hein, puisqu'on est avant la crise, on était à 15% de salariés qui ont
évidemment
les travail
sûr,
occasionnels.
Oui, oui.
Donc, c'est quand même développé. Alors,
c'est
pourquoi
c'est très peu par rapport à ce qu'on pourrait faire. On a les outils depuis longtemps, depuis 15-20 ans. On pourrait, pour énormément, pour une grande part en tout cas des employés, télétravailler. Et on ne le fait pas.
On le fait. Alors, je pense que là où c'est, enfin, dans les métiers dans lesquels c'est possible, ça s'est quand même fortement développé. Après, on le fait pas de manière comme on le disait, on le fait pas à temps plein. C'est-à-dire que le modèle en France a plutôt été vraiment le télétravail occasionnel ou sur un nombre de journées limitées, une ou deux journées par semaine. Pourquoi ? Ben, je pense qu'on a évoqué toute une série de raisons, à la fois du côté des entreprises et du côté des salariés. Je voudrais peut-être revenir juste sur un point qui est quand même un point important, c'est effectivement la dimension collective du travail. Je pense que quand on voit les enquêtes conditions de travail, hein, ce qu'on repère aussi, c'est le fait que les travailleurs en télétravail ont plus souvent le sentiment d'être isolés, vont être aussi du coup plus souvent soumis à un certain type de stress qui est lié à la gestion de leur temps, puisque c'est quelque chose qu'ils vont avoir un petit peu à gérer eux-mêmes, hein, avec une pression qui peut leur être donnée sur le fait de travailler en dehors d'horaires de travail typiques. Voilà, donc il y a quand même toute une série de facteurs qui font que du point de vue des salariés en tout cas, ça n'est pas nécessairement ce qui va être jugé, il va pas forcément être jugé souhaitable pour eux de travailler trop en télétravail. Ce que les travailleurs en fait laissent voir dans la plupart des sondages qu'on a ou des enquêtes qu'on a sur les questions de conditions de travail, c'est que ce qu'ils souhaitent avant tout, c'est avoir une maîtrise, c'est-à-dire le télétravail, oui, mais le télétravail dans une proportion qu'ils vont maîtriser.
Mais moi, je voyais plutôt au fond les réticences du côté des entreprises et pas forcément des employés. Mais
elles sont partagées. Elles sont partagées. Quand on regarde ce qui se passe du côté des, ce que souhaitent les, je pense que la majorité des travailleurs souhaite avoir la possibilité de télétravailler un peu, c'est-à-dire de télétravailler une, deux, voire trois journées par semaine. Ensuite, le télétravail à temps plein, ça n'est pas forcément le modèle qui est le modèle recherché pour les raisons qui soutiennent à l'insertion dans un collectif de travail, etc.
Gilbert Sette.
Les attentes sont très variables. Je veux dire, on peut pas généraliser et les réticences, les inerties au changement sont des choses qui existe. Je pense que si on s'installe un peu durablement du fait de contraintes sanitaires dans des situations de télétravail assez fortes, on verra comment ce qui se produit en ce mois de septembre et mois d'octobre, c'est-à-dire après la période estivale qui est quand même particulière, eh bien peut-être que les habitudes, les perceptions, le regard qu'on aura sur le télétravail sera totalement modifié. Je dirais c'est la pratique peut être accéléré par les obligations dans lesquelles on est. Il y a quelquefois, on est totalement surpris par la façon dont des choses, dont on se dit « Ah, elles vont être très difficiles à passer, elles vont être très difficiles à être acceptées », et bien finalement, passe très bien. En dehors même des modalités de travail, des types de travail, je vais vous donner un exemple. Quand au début des années 2000, il a été décidé, d'une façon réglementaire, d'interdire de fumer dans les lieux collectifs et dans les lieux de travail. On se disait, compte tenu de l'usage assez intensif des cigarettes en France, où ça va être difficile à être accepté, il va y avoir beaucoup de refus, etc. Ben, écoutez, à part quelques phénomènes vraiment anecdotiques, ça a été tout à fait bien accepté dans l'ensemble de la population. Et maintenant, on regarde avec des yeux étonnés ce qui se passait avant ce changement réglementaire. Donc vous voyez, il en ira peut-être de même pour le télétravail. Il y a une pratique qui est un peu forcée en ce moment à cause des conditions sanitaires, des contraintes sanitaires qui sont ce qu'elles sont et dont on ne sait pas combien de temps elles vont durer. Il y a de l'incertitude sur ce plan-là. Eh bien ensuite, peut-être cette pratique ayant été faite, le regard sur le télétravail sera complètement modifié. Mais encore une fois, il n'y a pas, je crois qu'on a beaucoup insisté là-dessus, télétravail ou pas télétravail.
Oui, ça, on a parfaitement compris.
Il peut y avoir,
oui,
voilà. Tout à fait. Et ça, c'est un point,
sera un modèle hybride.
C'est important quand même. Hein.
Ça sera un modèle hybride.
Ça sera un modèle hybride, sans doute.
Et qui aura un impact sur le temps de travail, Christine Arel?
Alors ça peut avoir un impact, enfin ça peut en tout cas changer le contenu des échanges sur le temps de travail. Alors ça pose, c'est ce qu'avait signalé Gilbert Sette tout à l'heure, hein, ça pose la question de la mesure du temps de travail, parce que c'est plus difficile de mesurer le temps de travail quand on est à domicile, sauf pour certains travailleurs qui vont utiliser, parce que les entreprises le font, des outils qui sont des outils qui vont vraiment comptabiliser de manière très stricte leur temps de travail. Mais sinon, la notion de temps de travail travail elle-même est plus complexe à mesurer. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faudrait effectivement avoir des échanges, des discussions, voire des normes, parce que ça sera compliqué sinon pour négocier sur le temps de travail. Ensuite, oui, ça peut changer la manière dont on perçoit le temps de travail, parce que si le temps de travail, c'est quelque chose qui donne de la flexibilité, qui laisse des possibilités de s'organiser parce qu'on est chez soi, parce qu'on a moins de temps de trajet, on va en fait pouvoir travailler plus, entre guillemets, plus facilement. Ce que montrent les études sur le télétravail, c'est plutôt que les télétravailleurs, en général, travaillent plus quand ils sont à domicile.
Alors, il y a des métiers qui ne peuvent pas se pratiquer à distance. Le travail domestique, par exemple, est touché de plein fouet par le Covid-19. Au Brésil, là où on va aller, où le virus circule encore à grande vitesse, plus de 6 millions de personnes sont employées à domicile par des particuliers. Pour elles, parce que pour l'immensité, ce sont des femmes et noires de surcroît le plus souvent. La pandémie a été une catastrophe, est encore une catastrophe, alors qu'un tiers ont perdu leur emploi. Celles qui ont gardé leur travail se retrouvent particulièrement exposées au risque de contamination quand elles ne sont pas contraintes à une quarantaine forcée chez leurs employeurs. Direction le Brésil et Rio en particulier, on retrouve Luisa Acciari. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin en direct et donc il est très tôt chez vous. Je vous remercie doublement d'être avec nous. Vous êtes chercheuse et co-directrice du Centre for Gender and Disaster de l'University College de Londres. Vous avez réalisé un long travail ethnographique sur ces travailleuses domestiques, mais aussi sur les organisations syndicales qui tentent de les défendre. D'abord, peut-être un mot pour commencer. Certains chiffres semblent indiquer que elles seraient, ces travailleuses domestiques, plus touchées par la pandémie que le reste de la société. Est-ce qu'on a un peu des études claires sur ce point? Dans quelle mesure elles sont plus touchées, justement?
Tout d'abord, merci pour l'invitation. Et en effet, donc c'est une des catégories les plus touchées par les effets de la pandémie. Les dernières données statistiques qu'on a sur le marché du travail, comme vous l'avez dit, elles montrent qu'à peu près un tiers d'entre elles aurait perdu son travail ces derniers mois. C'est probablement la catégorie la plus touchée en termes de perte d'emploi. Donc ça veut dire qu'à peu près 2 millions de femmes ont perdu leur travail à cause de la pandémie. En effet, le télétravail n'est pas possible hein, quand on est femme de ménage ou nounou ou cuisinière chez des particuliers. Et pour celles qui ont dû rester en emploi, ce sont des conditions extrêmement risquées de travail, puisqu'elles doivent prendre des transports en commun. Les employeurs leur fournissent pas toujours le matériel de protection individuelle nécessaire comme des masques ou des gants. Et on a entendu à travers les syndicats beaucoup de cas de quarantaine forcée chez l'employeur que les femmes ont fini par accepter évidemment pour ne pas perdre leur travail, mais elles ont dû rester plusieurs semaines éloignées de leur famille et coincées chez l'employeur.
Oui, donc même quand elles ont conservé leur emploi, c'était en fait sous contrainte en réalité. Est-ce que le gouvernement brésilien de Jair Bolsonaro a pris des mesures spécifiques pour toutes ces travailleuses, je dis travailleuses parce que c'est plus de 90% en réalité, hein, travailleuses qui ont perdu leur travail et celles où est-ce qu'il n'y a rien qui a été fait, Luisa Acciari?
Le gouvernement brésilien a commencé la crise en niant quand même hein, la gravité de la pandémie. Il y a eu beaucoup de cirques politiques et sanitaires. Et là, aujourd'hui, on a 120 000 morts. On est stable à 1 000 morts par jour. Donc c'est quand même pas le gouvernement le plus réactif. La seule mesure qui a inclus les travailleuses domestiques, c'est une aide d'urgence d'un peu près 150 euros, qui a été débloquée à partir du mois d'avril et qui incluait les travailleurs informels. Et donc, les travailleuses domestiques informelles pouvaient bénéficier. Seulement, cette mesure a mis beaucoup de temps à se mettre en place et les procédures étaient essentiellement faites en ligne par Internet, ce qui était assez compliqué pour la plupart d'entre elles. Et on n'a pas les chiffres exacts de combien d'entre elles l'ont touché, mais on a fait une enquête avec la Fédération internationale des travailleuses domestiques. On a eu à peu près 450 répondantes au Brésil. Et parmi elles, seulement 15% disaient avoir touché l'aide. J'ai pas les données nationales, mais...
Mais c'est une minorité.
Toucher l'aide,
c'est une minorité. Luisa Acciari, il y a effectivement cette question que ces personnes travaillent très majoritairement de façon illégale, c'est du travail informel, vous le disiez, et pourtant, il y a quelques années, on avait fait beaucoup d'efforts pour essayer de les intégrer dans l'économie, en tout cas de légaliser leur travail. Dilma Rousseff avait pris des mesures pour forcer les employés à déclarer leur domestique. Comment se fait-il que cette loi n'ait pas réussi à transformer les choses?
En effet, il y a une loi, donc il y a eu une réforme constitutionnelle en 2013 pour les inclure dans le Code du travail, et une loi en 2015. Avant ça, pendant les années du gouvernement PT, il y avait une augmentation de la formalisation, donc probablement par des combinaisons administratives du gouvernement, mais aussi d'une amélioration générale des conditions de travail et des conditions du marché du travail, donc pour les domestiques, mais aussi pour les autres catégories. Depuis 2015, donc la loi est votée en 2015, en 2016, il y a l'impeachment contre le gouvernement du PT, et depuis, on a une succession de gouvernements conservateurs. Jair Bolsonaro lui-même, lorsqu'il était encore député, s'est opposé à la loi qui étend les droits au travail domestique, donc c'est pas un grand défenseur des droits de cette catégorie. Et pour que la loi soit appliquée vraiment, il faudrait qu'il y ait des mécanismes pour contrôler ce qui se passe chez les particuliers. Et ça, évidemment, il n'y a aucun gouvernement qui est prêt à le mettre en place.
Est-ce qu'on peut attendre avec cette crise des évolutions en la matière parce que depuis très longtemps, en réalité, il y a une forme d'invisibilisation de toutes ces travailleuses. C'est comme si elles n'existaient pas. Et c'est vrai que depuis la crise, elles sont mises sous le feu des projecteurs. Il y a énormément d'histoires absolument tragiques qui sont relayées par les médias. Il y a par ailleurs, depuis quelques semaines maintenant, des campagnes de soutien. Il y a des appels aux dons pour essayer de les soutenir. Est-ce que la solidarité est au rendez-vous? Et surtout, est-ce qu'on peut imaginer que cette crise sanitaire ait au moins l'avantage de sortir de l'ombre un peu toutes ces travailleuses et de faire avancer leurs droits?
C'est ce qu'on espère. Donc, en effet, elles sont organisées, elles ont une fédération nationale au Brésil qui fait partie aussi de la Fédération internationale des travailleurs domestiques. Donc elles sont organisées depuis de nombreuses années, depuis des décennies en fait. Et en effet, c'est triste à cause du contexte, mais elles ont gagné beaucoup de visibilité ces derniers mois, justement parce que c'était une des catégories les plus touchées par la crise et qu'il y a eu énormément de drames et surtout des décès. Dès le début, le premier décès confirmé au Brésil, c'était d'une travailleuse domestique dans l'État de Rio. Donc ça a fait beaucoup parler. Et les syndicats sont organisés pour défendre les droits, mais aussi pour faire de l'aide humanitaire. Donc, il y a beaucoup de distribution de paniers alimentaires, par exemple, de produits de nettoyage et de produits d'hygiène par les propres syndicats. Donc on a vu en effet une solidarité du propre secteur, beaucoup de donations particulières, des donations internationales. Et tout d'un coup, des syndicats qui normalement font du travail syndicaliste, de défense des droits du travail, se sont retrouvés à devoir faire de l'humanitaire.
Vous restez avec nous, peut-être une réaction avec nos deux invités, Christine Herrel et Gilbert Sette, pour ces employés de maison au Brésil qui sont en première ligne et qui pourtant sont absolument indispensables. On disait tout à l'heure, on a vu combien il était difficile de travailler à la maison quand on a des enfants. Au Brésil, si vous enlevez ces employés de maison, les enfants ne sont plus gardés et les Brésiliens ne vont plus au travail et l'économie s'effondre. Réaction, Christine Herrel.
Je pense que ça me fait penser à deux sujets. Le premier, c'est celui de la santé au travail, puisque ce qu'on voit bien là, c'est que ces professions sont des professions extrêmement exposées, donc ça au Brésil comme en France. Mais la grande différence sans doute entre les deux pays, c'est que en termes de prévention, de sécurité au travail, de santé au travail, on a développé beaucoup plus d'outils dans les pays européens qui font que les travailleuses ou travailleurs qui vont effectivement travailler au domicile de personnes aujourd'hui sont équipés de matériel nécessaire. Enfin, en tout cas, le sont maintenant. Hein. On avait des difficultés au début, mais maintenant, le sont. Il y a un certain nombre de protocoles qui ont été mis en place, etc. Donc, le degré de protection est beaucoup plus important. Donc, ça souligne l'importance cruciale des politiques de santé au travail pour ces personnes. Et puis aussi, comme vous le dites, pour l'économie en général, puisque du coup on en a besoin et donc il faut absolument qu'elle puisse travailler. Et puis le deuxième aspect, c'est que pour ce qui est de la période du confinement et donc des ajustements qui ont dû être faits pendant la crise, en France, la solution qui a été retenue, c'est une solution quand même protectrice pour les salariés en question, puisque donc elles ont eu de fait droit au chômage partiel. Ce qui a permis d'absorber une partie, en tout cas, du choc lié à la perte d'activité pendant la période de confinement. Donc là aussi, c'est un outil de protection qui a été très important. Donc,
Gilbert Sept.
Oui, il y a différents problèmes qui s'entremêlent. Il y a évidemment le problème général des conditions d'emploi et de travail des travailleurs qui sont dans une relation interpersonnelle avec leur employeur, sans collectif de travail et donc sans défense, comme beaucoup de salariés en bénéficient heureusement via des corps intermédiaires comme les syndicats.
Même si là, en l'occurrence, il y a, nous disait Louisa Hatchari, une fédération nationale des travailleurs domestiques qui agit et qui essaye de faire avancer leurs droits. Hein. C'est pas comme si c'était le total. Hein.
Bien sûr, c'est pas le vide total, mais vous voyez, c'est quand même une situation très très différente de celle d'un salarié qui dans une entreprise, peut médiatiser ses relations avec le chef d'entreprise, avec son employeur, par des représentants syndicaux. C'est quand même tout à fait différent. Mmh. Et puis évidemment, ça a des conséquences dans le contexte particulier, spécifique du coronavirus, de cette pandémie, avec le fait que ces travailleurs peuvent être qui sont particulièrement exposés, qui sont pas éligibles au télétravail, peuvent être en situation de faiblesse pour bénéficier de conditions de protection qui leur évitent la contamination. Et effectivement, comme le soulignait Christine Herrel, en France, contrairement à ce qui peut se passer dans d'autres pays moins avancés, comme le Brésil, eh bien, on peut considérer que des mesures assez fortes ont été décidées pour faire bénéficier à ces travailleurs de conditions de protection et de protection de leur salaire en étant en retrait de fait d'activité. Donc voilà, c'est pas forcément l'alpha et l'oméga, mais c'est quand même quelque chose de considérable.
Merci beaucoup en tout cas à Louisa Hatchari qui était avec nous depuis Rio. Et je rappelle pour les auditeurs que vous avez écrit notamment un article intitulé « Le travail domestique est aussi une profession » qui a été publié dans la Revue internationale des études du développement. Merci beaucoup à vous. Grand merci à nos deux invités qui nous ont accompagnés depuis 11h. Christine Herrel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappellerai que vous venez de publier Les politiques de l'emploi, paru au PUF, dans la collection Que sais-je, toute nouvelle édition sortie au mois de juin dernier. Gilbert Sept, merci également. Je rappellerai vous concernant un ouvrage que vous avez écrit avec Jacques Barthélémy, Le bel avenir de la croissance, leçon du 20e siècle pour le futur. C'était chez Odile Jacob. On va mettre tout ça sur la page de Culture Monde, sur la page de France Culture. Dans un court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table, mais d'abord, c'est Brice Couturier, son Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors, dernier volet de votre série de chroniques sur la science et la religion, un livre signé Tom Holland. Rien à voir avec l'acteur britannique incarnant Spider-Man à l'écran, je suppose. Qui est ce Tom Holland-là, Brice?
Ben oui, il y a plusieurs Tom Holland qui sont célèbres. Et comme, si vous voulez, ce Tom Holland, c'est le Xavier Mauduit de la BBC. Et il présente sur BBC 4 une émission formidable qui est intitulée Making History. Formidable parce qu'elle repose sur des récits, des mises en scène de séquences historiques sous forme de dramatique. Il ne faut jamais perdre de vue que l'histoire est une forme de littérature. Les historiens d'autrefois la considéraient d'ailleurs comme une branche de la littérature, sinon elle est ennuyeuse. Je ne suis pas un universitaire, je suis un conteur d'histoire. Voilà ce que me disait Tom Holland lorsque je l'ai interviewé en novembre de l'an dernier. C'était à propos de son dernier livre paru aux éditions Saint-Simon qui s'intitule « Les chrétiens, comment ils ont changé le monde ». À sa lecture, j'avais eu le sentiment que son auteur avait voulu répliquer à 2,5 siècles de distance à son compatriote Edward Gibbon. Dans son histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain, Gibbon, pur produit de l'Enlightenment britannique, tend à rendre la diffusion du christianisme dans l'Empire romain responsable de son affaiblissement, de son déclin et de sa chute. Les chrétiens, ayant formé une société séparée, le minaient de l'intérieur, ruinant la vieille religion civique romaine. Pour Tom Holland, au contraire, tout ce qui est apparu en Occident jusqu'à une date récente, et même ce qui lui paraît le plus hostile, comme les Lumières, la laïcité et même le marxisme, a une origine chrétienne. Son histoire tisse une toile qui fait s'entrecroiser les développements de la pensée chrétienne et l'histoire politique et culturelle de l'Europe puis de l'Occident. Selon cette vision, toute l'histoire européenne baignerait ainsi dans un christianisme omniprésent et multiforme, mais qui ferait, depuis le XIXe siècle, l'objet d'un immense refoulement. Son livre est d'une érudition formidable et d'une lecture passionnante, de qualité, vous l'avouerez, rarement réunie. Chaque chapitre, en effet, est centré autour d'une date ou d'un événement ou d'un personnage, apportant ainsi une nouvelle pierre à l'édifice de l'histoire européenne occidentale. Et il comporte, chaque chapitre, une leçon. Mais, comme il y insiste, il s'agit de récits vivants et documentés, dans le style donc qui fait de ces émissions de la BBC des succès populaires. Mais à chaque fois, le point de départ est le suivant. Il était stupéfiant d'élever à la dignité suprême, celle de la divinité, un homme né dans les franges orientales de l'Empire romain et ayant subi le châtiment réservé aux esclaves, Jésus de Nazareth. Mais c'était faire entrer l'humanité dans un nouveau paradigme, le triomphe du plus faible, l'élection de l'humilié, du supplicié.
Et le sujet qui vous occupe, Brice, depuis le début de cette semaine, les relations compliquées en terre chrétienne entre la science et la foi. Qu'en dit Tom Holland ?
Il y consacre un chapitre entier. Et cette fois, le narrateur nous transporte dans un immense cimetière de dinosaures découvert en 1876 par le paléontologue américain Edward Drinker Cope dans un ravin du Montana. Comment concilier la découverte de ces fossiles datant de plusieurs dizaines de millions d'années avec le récit biblique de l'Arche de Noé? On n'a jamais entendu parler de tyrannosaure ni de stégosaure à bord de la fameuse Arche. C'est pourtant bien à un ecclésiastique, le géologue et paléontologue d'Oxford, William Buckland, qu'on doit la première description complète d'un dinosaure 18 ans avant l'invention même de ce mot par Richard Owen. En Grande-Bretagne et en Amérique en particulier, écrit Tom Holland, la conviction que la main de Dieu était manifeste dans la nature, ce que l'on appelait donc la théologie naturelle, était devenue, au milieu du XIXe siècle, une arme clé des défenseurs du christianisme. À travers l'identification des mécanismes à l'œuvre dans le monde physique, la philosophie naturelle, comme on appelait encore la science à l'époque, était censée fournir des lumières sur les intentions même du Créateur. La science et le christianisme pouvaient donc faire bon ménage. Mais Tom Holland convient que ce mariage de convenance devait nécessairement achopper sur le darwinisme. Pas tant parce que l'évolutionnisme ruine la théologie de la création de l'homme par la divinité elle-même et à son image, mais à cause de certaines utilisations qui ont été faites du darwinisme. L'idée que la morale puisse être le résultat de l'évolution choquait déjà Emma Darwin, son épouse. Et pour Darwin, le sens moral est le fruit des instincts sociaux acquis au cours des millénaires et du développement particulier de l'intelligence chez l'être humain. Mais Darwin ne saurait être rendu responsable de ce qu'on appelle maintenant le darwinisme social, théorie raciste selon laquelle la sélection naturelle élit les peuples forts et justifie leur domination sur les peuples faibles condamnés, eux, à l'extinction. En tout cas, il est bien évident, comme le souligne Tom Holland, que cette idéologie contredit frontalement la doctrine chrétienne.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr, comme l'ensemble de cette série consacrée à cette articulation entre science et religion. Merci beaucoup Brice. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.